Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. C'est en direct, le générique, ça se voit. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes en direct sur Alter Nantes, 98.1 FM à Nantes, 91 à Saint-Nazaire, Triac. Vous avez une émission qui va être magnifique comme d'habitude encore.
Exceptionnelle.
Allez, on va se passer un peu de brosse à reluire. Donc ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous avons la grosse partie qu'on va parler, c'est le compte-rendu de la conférence de Pierre Léna, avec une interview qu'a réalisé Dominique Menel. Du conférencier, donc on va vous parler un peu de ce qu'il a parlé, c'était surtout sur les grands télescopes, les exoplanètes, etc. On va aussi vous parler d'une chose importante, le passage au troisième millénaire, parce que je vous signale que, on va dire 99,99% de la population française a fêté le changement de millénaire à minuit.
À minuit à la montre.
Alors qu'à Nantes, c'était pas à minuit.
Nous avons fêté ça au méridien.
Voilà, donc on l'a fêté à l'heure précise où Nantes rentrait dans le troisième millénaire. Donc on vous explique un peu tout ça, parce que le changement de millénaire, c'est astronomique. Et aussi, une petite partie sur l'expérience de Rømer, qui a simplement, entre guillemets, découvert que la lumière était...
Tu révèles pas.
Était une vitesse. Après, on vous expliquera tout ça. Voilà. Je ne vais pas tout révéler maintenant, t'as raison Daniel. Donc voilà, c'est une émission encore bien variée. Ce soir donc, nous sommes en direct, comme d'habitude. Vous êtes avec la Société d'Astronomie Nantes. Et je vais laisser la parole à Daniel Orling qui va nous présenter la conférence dont on va parler ce soir.
Absolument. Et avant de passer à l'interview qu'a réalisé Dominique Menel de Pierre Léna. Pierre Léna qui est une sommité que je ne présenterai pas ou très peu parce que je crois qu'il va se présenter lui-même au cours de cette interview.
Non, c'est Dominique qui le fait.
Dominique le fait, voilà. Bon.
Vas-y, il n'a pas très bien fait.
Tout à fait, il n'y a pas de problème. Cette conférence s'intitulait « Télescopes géants, interféromètres et planètes inconnues hein, ». La nouvelle astronomie. Donc c'était un titre tout à fait... Tout à fait, on voulait qu'il soit d'actualité, on voulait qu'il soit frappant, car l'astronomie entre dans une phase, et ça tombe avec le troisième millénaire, tant mieux, dans une phase d'explosion, d'essor avec des techniques prodigieuses, gigantesques, et nous voulions associer à ce thème Pierre Léna, qui est une sommité du monde de l'astronomie, et qui a notamment mis en œuvre le grand télescope du Chili, il va vous le dire mieux que moi. Ça se déroulait le mardi 5 décembre à l'auditorium du Conservatoire National de Région de Beaulieu. Donc c'est magnifique, qui est une salle de concert, mais qui n'est pas une salle de concert, qui est tout simplement une salle, une belle salle dans laquelle, quelquefois, se déroulent les conférences de la Société d'Astronomie.
Je te coupe deux secondes pour changer complètement le sujet. J'ai oublié de parler qu'il y avait une éclipse de lune demain, donc on en parlera un peu en fin d'émission.
Oui.
On vous le dit simplement, pour ceux qui voudraient aller se coucher maintenant, on ne sait jamais s'il y a des couches tôt. Il y a demain soir, il y a éclipse de lune. Vas-y, il reprend la parole.
Voilà, c'est l'actualité qui prime, comme voilà. Donc cette conférence s'est déroulée dans ce magnifique auditorium le mardi 5 décembre. Alors comme à l'accoutumée, bien sûr, on essaye de vous faire partager ou vous faire retrouver par le son ce que certains ont vécu, et notamment cette présence de Pierre Léna raconter cette épopée. Des très grands télescopes. Alors je cède la parole à Dominique Menel pour la suite de cette interview.
Oui, effectivement, c'était une occasion, on va dire une occasion rêvée, une occasion en or de recevoir cet astronome de renom qui a énormément travaillé à la mise en place et au développement, à la mise au point également de ces grands télescopes qui sont installés dans les Andes chiliennes sur un sommet qui s'appelle le Cerro Paranal. Et Pierre Léna va nous expliquer un petit peu quels sont les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui a présidé au choix du site, comment ont été définies la dimension des instruments qui ont été installés là-bas, et puis également ce qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on a déjà commencé à faire avec ces instruments, est-ce qu'on est loin d'avoir terminé de faire.
Donc c'est une interview, le début d'une interview, parce qu'elle sera en plusieurs parties, que tu as réalisé avant la conférence, c'est ça?
Oui, donc il y a eu une petite discussion juste avant la conférence, et durant laquelle Pierre Léna nous a expliqué tout ça.
Voilà, bon, c'est parti.
Pierre Léna, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Léna, vous êtes professeur à l'Université de Paris 7, vous êtes astrophysicien avant tout, et vous êtes chercheur associé à l'Observatoire de Paris-Meudon. À ce titre, vous avez beaucoup œuvré à la conception et à la mise en place de l'Observatoire européen austral qui est situé dans les Andes chiliennes. Et en quelques mots, vous allez nous dire comment est né le projet, qui en est à l'origine et où il en est.
Bien, l'homme qui en est à l'origine, c'est Ludwig Wolger, qui a été directeur général de l'ESO pendant 13 ans et qui a été l'artisan de la conception du VLT. L'histoire est finalement assez simple. Dans les années 60, il n'y a pas d'instrument astronomique en Europe, pratiquement. La France a le télescope 293 à Saint-Michel de Haute-Provence. Et dès qu'on veut disposer d'outils de grand diamètre, on est entièrement dépendant des États-Unis. Les Européens se réveillent et dans la décennie 70 construisent plusieurs instruments de 3,60 m de diamètre. Je parle d'astronomie optique, hein, bien sûr. C'est à cette époque qu'à la fin des années 70, le télescope Canada-France-Hawaï apparaîtra donc en coopération au sommet du Mauna Kea et que les Européens s'unissent. L'acte de fondation de l'ESO date de 1962. Les Européens s'unissent pour mettre laborieusement, il faut bien le dire, au point un projet d'instrument dans l'hémisphère sud qui sera le télescope de 3,60 m de l'ESO, le premier grand instrument européen au Chili installé à La Silla. À la fin des années 70, une volonté se fait jour, pilotée par Wolger, de mettre l'ensemble des ressources imaginables, concevables des Européens, à l'époque 6 pays, que rejoindront assez vite l'Italie et la Suisse au début des années 80, de mettre toutes les ressources en commun pour construire ce qui pourrait être le plus grand observatoire du monde.
Et qu'est-ce qui a présidé au choix d'un plateau andin au Chili pour installer ces 7 instruments et puis plus tard 16 instruments?
La première sélection de sites s'est faite donc dans l'hémisphère sud. Il n'y a pas tellement d'endroits possibles dans l'hémisphère sud. En gros, si vous regardez la carte du globe, une map monde, vous apercevez que ce sont les zones désertiques, donc favorables à l'observation astronomique, sont toutes situées sur les côtes ouest des continents. Ça s'explique simplement à partir de la météorologie. Et donc, quand vous promenez autour de la Terre à une latitude voisine du tropique, pour être près de l'équateur, donc pour voir si possible les deux hémisphères, hein, autant que possible, vous apercevez qu'il n'y a guère que la côte australienne, la côte namibienne et la côte chilienne. Du point de vue de la commodité, de la desserte, de la proximité avec l'Europe culturelle aussi, le Chili s'imposait. Donc le choix était assez naturel et c'est ce qui avait conduit au choix de la CIA. Le choix du site du VLT, lui, a été longuement mûri après des campagnes de sites et le choix final du Cerro Paranal, donc, qui n'est pas très élevé, qui est sur la cordillère côtière, 2640 mètres d'altitude après qu'on ait arasé le sommet de la montagne, n'a été fait qu'après l'approbation du VLT, lorsqu'en 1987 on a choisi de s'engager dans ce projet financièrement. Il y avait encore 2 options pour le site possibles.
Bien, durant cette première partie de l'interview, Pierre Léna a évoqué l'observation dans le domaine visuel. Je crois qu'il faut apporter quelques petites précisions à ce qu'il vient de dire. Parce que effectivement, et instinctivement, je vais dire,
lorsqu'on va regarder le ciel, on va avoir tendance à le regarder
avec ses yeux.
Avec ses yeux, donc on va percevoir uniquement les longueurs d'onde, les couleurs en quelque sorte, que l'œil est capable de percevoir.
Et on peut même préciser l'œil humain.
L'œil humain, oui, parce qu'effectivement, on regarde d'autres espèces animales, elles sont capables de voir dans d'autres couleurs que...
Ah, comme les animaux qui voient plus dans l'infrarouge.
Ouais. Voilà, tout à fait. Et ce qu'il faut dire, ce qu'il faut expliquer, c'est que lorsque nous sommes à la surface du sol, donc lorsque nous sommes à la surface de la Terre, les rayons lumineux qui proviennent des étoiles doivent traverser l'atmosphère terrestre. Et il se trouve que cette atmosphère terrestre est opaque à certaines radiations.
Elle laisse
évidemment, et heureusement, alors ces radiations auxquelles l'atmosphère terrestre est opaque, c'est par exemple les rayons X ou les ultraviolets courts, ceux qui sont très, très pointus, très piquants.
Les rayons classés X.
Les rayons classés X, oui. Et également à l'autre extrémité, les rayons infrarouges, les longs, et etc., qui ne vont pas traverser l'atmosphère. Alors, Pierre Lénin évoquait donc l'observation dans le visuel, parce qu'effectivement, à partir du moment où on va installer un télescope à la surface du sol, on ne va pouvoir faire des observations que dans ces longueurs d'onde-là. Mais il va sans dire qu'une étoile comme le Soleil, par exemple, qui est une étoile commune, comme il en existe beaucoup, émet dans de nombreuses autres longueurs d'onde qu'on ne va pas pouvoir observer depuis le sol. Et si on souhaite bénéficier de la totalité du spectre, on appelle ça le spectre, hein, l'ensemble de la radiation électromagnétique émise par un corps, bien on va devoir sortir les observatoires de l'atmosphère terrestre, parce que l'atmosphère terrestre est un filtre total.
Donc il serait qu'on est obligé d'envoyer des satellites qui vont observer dans les rayons X, notamment X et même Newton qu'on
X,
parle un petit peu.
Ultraviolet,
gamma, etc.
Et donc l'objectif des gros télescopes qui sont installés au Chili, c'est de faire de l'observation dans le visuel, c'est-à-dire dans les lumières qu'on a l'habitude de voir, le rouge, le bleu, le vert, le violet, un petit peu l'infrarouge, et on appelle ça l'infrarouge proche, mais on n'ira pas au-delà.
C'est vrai qu'il y a aussi une partie qui est quand même très importante qu'on arrive à... Quand tu disais que ça filtre une partie de l'atmosphère, il y a quand même tous les rayons X qui restent. Les rayons radio, excuse-moi. La radio qui reste, et ce qu'on a des radiotélescopes. Donc là, le VLT dont il parlait, c'est pour ce qu'on appelle de l'astronomie optique. Donc, comme tu disais, de visuel. Alors que ce qu'on a qui est en concordance, ou en... Pas en concordance, mais en différence de la radioastronomie qui, elle, observe dans les ondes radio.
Alors, la radioastronomie est un petit peu comme l'astronomie dans le visuel, à la différence qu'elle va exploiter des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, et les antennes qui vont remplacer les miroirs de télescope, qui ont le même profil, hein, les antennes de radiotélescope ont les mêmes profils que les miroirs de télescope optique, leur différence essentielle, ça va être la taille, le diamètre, hein, il n'y a qu'à se référer à l'immense antenne qui est située en France, en Sologne, à Nancy, qui est une antenne qui fait 300 mètres de long sur 40 ou 50 mètres de haut.
C'est un monstre, on a été le voir, c'est un monstre.
Et qui a pour elle, pour mission, pour objectif, de capter non plus de la lumière, mais des ondes radio qui vont être des ondes métriques, décimétriques, voire plus longues, jusqu'à des ondes kilométriques.
On peut même préciser que l'astronomie, la radioastronomie, n'a pas le même pouvoir résolutif, séparateur, que l'astronomie optique. La longueur d'onde qu'on étudie, on n'a pas la même netteté, on pourrait dire.
On n'a pas les mêmes informations non plus qui nous viennent.
Hein. Voilà. C'est l'intérêt. Donc aussi, ça se complète, en fait.
Ouais, on est obligé de l'observer.
Effectivement, il y a grand intérêt à faire à la fois de l'observation dans le visuel, pour voir un petit peu ce qui existe et le comparer à ce qu'on observe par ailleurs aussi bien dans rayonnement X qu'en gamma qu'en radio pour tâcher d'avoir un spectre le plus complet possible.
Donc je pense qu'on va peut-être passer à la deuxième partie de la...
Allons-y.
Je pense que donc on a bien dit aux gens que c'était l'observation visuelle qui était utilisée pour le VLT.
Large Telescope.
Voilà, le Very Large Telescope en français dans le texte.
Voilà.
Et donc on va un peu parler de ce VLT.
Et ce fameux VLT, donc, qui a été décidé dans ces années-là, de quoi était constitué le projet, quel type d'instrument souhaitait-on construire au Cerro Paranal et quelle utilisation souhaitait-on en faire exactement, puisque il existait déjà ailleurs dans le monde, notamment à Hawaï, sur des sommets un petit peu plus élevés en altitude, une batterie de grands instruments. Et bien évidemment, avec le projet VLT, on souhaitait faire peut-être des choses un petit peu différentes.
Oui, alors, le premier critère, c'était la surface de télescope. Alors, on voulait avoir une grande surface. Il n'existait en début des années 80 aucun instrument au-delà de 4 mètres, sauf le télescope soviétique à l'époque, de Zelenchuk, qui était un bon instrument, mais dans un site désastreux. Donc ce télescope n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire si le site avait été mieux choisi. Donc il n'existait en fait rien donc, de comparable à ce qu'on souhaitait faire avec le VLT. Le choix de la surface, du diamètre des télescopes, en fait, a résulté de ce que les ingénieurs acceptaient de concevoir comme possible avec des risques acceptables. Et c'est comme ça que le diamètre de 8,20 m a été choisi, puisque pour le VLT, on a choisi de faire un monolithe, un miroir d'une seule pièce, d'un seul tenant, une surface mince en verre, dont la conception reposait sur un instrument de démonstration qui s'est appelé le NTT, le New Technology Telescope, dont l'optique active a été le premier miroir actif qui a été réalisé par l'ingénieur Ray Wilson.
À propos d'optique active, vous pouvez peut-être nous dire en deux mots simplement ce qu'est l'optique active et ce qu'elle a apporté à la qualité des observations depuis le sol de la planète.
Si vous voulez, pour faire un grand télescope au sol, disons 8 mètres, 10 mètres, voire davantage, il n'est plus question d'avoir des miroirs monolithiques, épais, donc rigides. Parce que le poids deviendrait absolument prohibitif et le coût donc excessif. Donc la feuille de verre déformable devient la solution. Soit monolithe, comme pour le VLT, 17 cm d'épaisseur pour les miroirs du VLT, soit par segment, comme pour le Keck télescope installé à Mauna qui lui fait 10 mètres et qui est fait d'un pavage de miroirs hexagonal, 64 miroirs, qui sont mobiles individuellement et dont le positionnement est donc asservi. Dans l'un ou l'autre cas, ce sont des miroirs donc légers, mais asservis en permanence pour compenser les déformations induites par le vent, la température, la gravité essentiellement. Voilà, c'est ce concept-là qui a révolutionné la construction de grandes pupilles au sol.
Un miroir de 8,20 m de diamètre et de 17 cm seulement d'épaisseur, c'est une crêpe, ça doit être extrêmement fragile, et difficile à mettre en œuvre et à utiliser, parce qu'on peut imaginer facilement qu'en fonction de l'orientation du télescope, ce miroir se déforme, donc il doit falloir récupérer en permanence la géométrie de ce miroir pour lui conserver des qualités optiques qu'il doit posséder.
Alors c'est cela même le principe de l'optique active. La feuille de verre, qu'elle soit encore une fois un monolithe ou faite d'un pavage de segments indépendants, comme c'est le cas pour le Keck, la feuille de verre est souple. Elle est fragile naturellement, mais on n'essaie de pas la casser. Il suffit de prendre un certain nombre de précautions. Mais elle est souple et donc elle se déforme. Et au fond, on est très heureux qu'elle se déforme de façon élastique, puisque les lois de l'élasticité permettent, en fonction d'une force appliquée, de prévoir exactement la déformation. Exactement, ça veut dire que la surface est positionnée à une précision qui est de l'ordre de lambda sur 30, à peu près. Donc,
excusez-moi, je vous coupe un petit peu. Lambda, je crois qu'il faut préciser ça pour nos auditeurs. Lambda, c'est ce qui quantifie la longueur d'onde de la lumière. Donc, quand on parle de lambda, on est dans des grandeurs très très petites. C'est de l'ordre de. Les lambdas se mesurent en micromètres ou en angstrom. On est vraiment très très petit, très précis.
Voilà, ça veut dire que la précision finale de la parabole, hein, le miroir prend une forme parabolique, contrôlée donc par des petits vérins qui agissent sur la surface, va être de l'ordre d'une vingtaine de nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre.
Donc effectivement, ça nécessite des technologies pour fabriquer et polir ces miroirs qui sont extrêmement précises, évidemment, et puis coûteuses, cela va sans dire. Le VLT. Pierre Léna nous parlait du NTT, il nous parlait de longueur d'onde, de précision des miroirs, du polissage des miroirs. Effectivement, je pense que ça nécessite quelques petites précisions, tout ça. En ce qui concerne l'observation dans le visuel à travers l'atmosphère terrestre, il se trouve qu'on est très très vite limité par la turbulence de l'atmosphère. La turbulence a des origines multiples. Ça peut être les vents d'altitude. Ça peut être la chaleur. Ça peut être la diffraction entre les différentes couches composant l'atmosphère. Alors, il se trouve que les 3 ou 4 photons qui nous parviennent d'une étoile ou d'une galaxie qui va se trouver à quelques millions ou milliards d'années-lumière, ils vont être bien poussifs une fois qu'ils auront traversé ces quelques couches d'atmosphère. Et ce qui se passe, c'est que cette lumière va être en quelque sorte déviée, perturbée au travers de cette couche d'atmosphère. Et lorsqu'on va observer quelque chose qui devrait être un point ou très très proche d'un point, on va avoir une tache très diffuse. Et pendant longtemps, ça a limité la qualité des observations depuis le sol. Et également, on n'a pas vu la nécessité de construire des très grands miroirs, puisque de toute façon, même si le miroir est très grand, la qualité de l'observation est extrêmement altérée par le fait que la lumière doive traverser l'atmosphère.
Ce qui veut dire en fait que même si tu grossis le miroir, au bout d'un moment, tu n'auras pas meilleure qualité, ce qui peut être paradoxal.
Tu grossis du flou, en fait. D'ailleurs, on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que le grand télescope de 5 mètres du Mont Palomar, en fait, n'était pas meilleur qu'un télescope de 200 mm du point de vue de sa résolution. Ça m'étonne un peu, mais...
Il est moins bon... Le 5 mètres du Mont Palomar en résolution est moins bon que le 1 mètre du Pic du Midi.
Ouais.
Parce qu'il se trouve installé dans un site qui est extrêmement défavorable en ce qui concerne les conditions atmosphériques. Le 1 mètre du Pic du Midi est plus petit en diamètre, évidemment, mais par contre, il est dans un site qui est assez exceptionnel en ce qui concerne la pureté de l'air et la qualité ou la quiétude de l'air, on peut dire, au-dessus.
Autrement, la turbulence, ça se voit bien si jamais vous observez au télescope la Lune. Là, c'est le plus visuellement, astronomiquement visible.
Ça fait comme si on avait une casserole sur le feu devant.
Autrement, c'est quand vous faites un barbecue en camping et puis vous regardez, vous asseyez devant votre barbecue et vous regardez en face et en fait, vous voyez bien que la chaleur monte et ça fait bouger l'atmosphère qui est au-dessus du barbecue. Et en fait, si on imagine que derrière le barbecue, il y avait une étoile, vous auriez une image qui tremblote tout le temps, donc c'est du flou.
D'où l'idée de construire quelque chose qui vienne un petit peu obvier, qui vienne un petit peu corriger ces déformations d'image dues à la traversée de l'atmosphère. Et ces idées ont abouti à la construction d'un télescope qui s'est appelé le NTT. Alors c'est encore un anglicisme, on va dire, voilà. New Technology Telescope. Alors qu'est-ce qu'il avait de New Technology, ce télescope? Eh bien en fait, il est équipé de systèmes, à partir du moment où l'informatique l'a permis, qui vont permettre de corriger en temps réel, ou en temps quasi réel, la déformation du faisceau lumineux en déformant, mais de façon tout à fait exactement inverse, en déformant un des miroirs ou un train de miroir qui va servir au cheminement du rayon lumineux, de façon à pouvoir restituer à la sortie, les deux déformations se compensant, donc le rayon lumineux est déformé par l'atmosphère, le miroir est déformé pour compenser la déformation du rayon lumineux, et à la sortie, on a une image qui est beaucoup plus nette.
Si on peut imaginer un peu, ça fait comme si on recevait une barre, quand une galaxie c'est une barre en fait, moi je peux imaginer une barre qu'on aura sur notre photo, si vous imaginez la barre qui traverse l'atmosphère, ça peut quasiment arriver au moment du télescope à devenir quasiment un N, puisqu'il y aura des points lumineux qui arriveront avant, et deux des parties lumineuses qui arriveront après, donc ça vous fait un espèce de N ou de V ou comme on veut, et en fait le miroir lui en fait il va se mettre en N inversé, et quand il y aura des pics il va faire des creux, bon, ça vous imaginez, mais et quand il y aura un creux il va faire un pic, et en fait à la fin on aura un truc plat.
C'est ce qu'on appelle redresser le front d'onde.
Oui, effectivement, Daniel, c'est redresser le front d'onde, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, la correction se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau du miroir primaire, donc ce grand miroir, le NTT est équipé d'un miroir de 3,60 m. Alors, il a été taillé dans une galette de verre suffisamment mince pour qu'il soit déformable.
Donc il y a tout un tas de vérins qui sont placés sous le miroir et qui vont déjà faire une première série de corrections.
C'est un peu à la mode les formations, parce que quand on a les voitures dans le temps, elles étaient construites presque en béton massif, surtout pas qu'elles se déforment. Maintenant on fait exprès que les voitures qu'on donne accident, ça se déforme.
Ben, c'est la même chose pour le miroir, sauf que là on va essayer de ne pas le casser.
Quand on ne casse pas, on va juste le déformer.
Et puis la deuxième série de corrections va se faire à travers un miroir beaucoup plus petit, beaucoup plus mince, et qui va être déformé, dont la surface va être déformée non plus par des vérins, puisque là on n'a plus besoin de vérins, et puis surtout on a besoin d'avoir des actuateurs, des petits dispositifs qui soient extrêmement rapides, qui soient capables d'apporter des déformations dans des durées typiquement de l'ordre de la microseconde, le millième de seconde. À ce moment-là, on fait appel à des petits dispositifs piézoélectriques qui vont déformer la surface d'un miroir mince. Et la combinaison de ces deux corrections va procurer une image qui va être pratiquement d'aussi bonne qualité que celle qu'on aurait pu observer depuis un télescope placé hors atmosphère, comme par exemple le télescope spatial Hubble.
Il faut rappeler que ces technologies, comme on dit maintenant, ces nouveaux télescopes, ont des techniques qui sont infiniment supérieures à celles qui avaient été développées à l'époque du télescope spatial, parce qu'entre le moment où on l'a conçu et le moment où il a été envoyé dans l'espace, il s'est passé pratiquement une vingtaine d'années pendant lesquelles la technologie a beaucoup évolué.
Même les satellites qu'on envoie, ils mettent plusieurs années entre le moment où vous décidez de le faire et puis faut commencer à tout lancer là, entre guillemets, la machine.
Et donc ces fameux grands télescopes sont d'une technique bien supérieure à celle du télescope spatial qui n'a que l'avantage d'être hors atmosphère.
De plus, ces grands télescopes disposent de surfaces de miroir qui n'ont rien de commun avec le miroir du télescope Hubble. Hubble a un miroir d'un petit peu plus de 2 mètres. Les VLT, on parle de miroirs de 8,20 mètres de diamètre. Donc on n'est plus tout à fait dans la même échelle de grandeur.
Ce qui est impressionnant aussi, c'est quand même qu'ils font 8,20 mètres de diamètre, donc je ne l'explique pas, la taille, et ils font que 17 cm d'épaisseur. Si vous ramenez ça pour un disque compact, si on mettait le VLT à un disque compact, ça vous ferait un truc de 2 mm d'épaisseur. À la rigueur, un disque compact, technologiquement, ce n'est pas très difficile, mais sur 8,20 mètres, avoir quelque chose de 17 cm, c'est aussi pour ça qu'il fallait obligatoirement de l'optique adaptative, pour qu'en fait on déforme les miroirs, parce que dès que le miroir allait se déplacer un peu, il allait avoir un côté qui allait presque plier ou se déformer. Donc en fait,
C'est un peu un grand miroir comme ce des VLT, 8,20 mètres, c'est un petit peu une galette. Si on le laisse bien à plat dans le fond de l'assiette, la galette va rester à plat. Et puis imaginez, vous allez redresser votre assiette petit à petit, et vous allez voir le bord supérieur de votre galette qui va se replier, vous allez avoir une galette pliée en deux.
Ça serait un peu bête de plier un miroir du mètre 20.
Ouais, d'autant que je crois que ça irait pas jusqu'à toucher l'autre bord, ça casserait sûrement un vent. Et donc, la batterie de vérin qui est placée sous les vérins et sous le miroir, et pas seulement sous le miroir, mais également à sa périphérie, permettre de compenser les déformations dues aux différents pointages du télescope.
Donc, Pierre Léna a déjà précisé que le VLT était installé au Chili, puisqu'il y avait un site qui était dans l'hémisphère sud et puis qui était près de
ce qu'il n'a pas précisé à propos du Chili, qui va peut-être en faire rêver plus d'un, notamment du côté de Redon. Je ne sais pas si on les écoute jusque là-bas, mais imaginez que dans le désert de l'Atacama, là où se trouve le Cerro Paranal, on a à peu près 360, je dis bien 360 jours de soleil par an.
Voilà. Sans pluie,
Ça fait 5 jours de pluie, mais ils n'en ont pas eu plus à Redon. Ils ont eu 5 jours de pluie qui ont fait déborder le vase.
Oui, ils n'ont eu que 5 jours complets. Donc, on va vous passer un petit peu de musique, à peu près, entre guillemets, qui vous fera penser au Chili. C'était Song of Ocarina de Denecéville. Alors, donc, vous êtes de retour sur Alternante, en direct avec la Société d'Astronomie de Nantes. Nous allons maintenant vous parler, vous savez tous qu'on a changé de millénaire. Tout le monde le sait, sauf que personne ne sait à quelle heure Nantes a changé de millénaire. Donc maintenant, écoutez bien, vous allez pouvoir le savoir. Donc Daniel, c'est Daniel Warling qui va nous parler de ça. Parle-nous un peu du passage de Nantes au troisième millénaire.
Eh bien oui, mon cher Thierry, lorsque nous nous sommes penchés sur cette question, vous savez, nous ne laissons rien au hasard à la Société d'Astronomie. Passage au troisième millénaire, c'était quand même un moment assez important pour que nous nous préoccupions de savoir à quel moment cela se passerait exactement. Quand je dis exactement, c'est parce qu'on a perdu cette notion de l'exactitude. On regarde nos montres, on dit il est minuit, mais pas du tout, chers amis, il n'a jamais été minuit. D'ailleurs, à aucun moment, quand vous regardez votre montre, il n'est pas l'heure qu'il est sur votre montre, il est tout simplement l'heure légale. D'ailleurs, quand on prend l'avion, quand vous dit, la charmante hôtesse vous dit l'heure locale, elle est de temps, il faut rectifier ou dire, chère mademoiselle, madame, dites pas l'heure locale, dites l'heure légale du pays où on atterrit.
Parce que l'heure locale, en fait, je crois que c'est un quart d'heure entre Nantes et Strasbourg.
Ben, l'heure locale, voilà, c'est tout simplement, c'est 40 minutes entre Nantes et Strasbourg. Il y a presque un fuseau horaire entre Brest et Strasbourg. Ouais. D'ailleurs, quand nous avons été à Sarrebruck, on a été étonnés. Moi, je reviens d'Alsace où la nuit tombe à 4h30, à 5h, nuit. À 5h30, il fait nuit noire là-bas en Alsace. Donc, bref, on est quand même assez. L'heure, ce qu'on appelle l'heure locale, c'est tout simplement ce que les astronomes appellent l'heure du méridien. Alors c'est quoi le méridien? C'est tout simple, hein. La Terre c'est comme une orange et vous taillez des tranches là-dedans qui vont du pôle nord au pôle sud, ça vous trace un méridien et celui qui passe par Nantes, au moment où Nantes passe face au soleil, au moment où la ville de Nantes regarde le soleil en face, il est midi.
Et quand on dit qu'il est aux zénith,
voilà. Quand nous le voyons, il passe au plus haut dans le ciel.
Je me permettrai de relever un tout petit peu Thierry parce qu'il vient de nous dire une énormité.
C'est pas au zénith. Hein.
Le soleil ne passera jamais au zénith.
Ça veut dire qu'il est au-dessus.
C'est un abus de langage.
Il passe au méridien.
Il est au zénith à l'équateur, non pas à l'équateur, au tropique.
Entre les tropiques.
Il ne passera jamais.
T'as raison, Dominique.
Mais quand il passe, cher Thierry, au méridien. Voilà. Alors bien sûr. Quand il passe au méridien, il est midi. Alors nous, notre problème, c'était de savoir, non pas quand il passait au méridien, le soleil, mais quand il passait à l'antiméridien, c'est-à-dire quand le soleil, quand il était midi, en fait, aux antipodes de Nantes. C'est-à-dire quand le méridien de Nantes était exactement opposé au soleil. Alors ce moment exact, alors nous avons cherché, évidemment, je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite, je vais vous l'expliquer. Alors d'abord, on a sur notre montre, il est minuit, n'est-ce pas? Alors vous savez bien, depuis que les Allemands ont gagné la guerre, comme chacun sait, nous sommes à l'heure de Berlin. C'est-à-dire qu'en fait, on est... En été, on est à l'heure de Varsovie, c'est en encore plus, mieux. Ouais. Ça, c'est des fantaisies de nos hommes politiques, ils sont toujours prompts à faire des choses pour faire parler d'eux. Alors donc, vous regardez votre montre, il est minuit. En réalité, il n'est que 23 heures. Alors attention, en plus, il n'est même pas 23 heures au méridien de Nantes, il est tout simplement 23 heures au méridien de Saumur, là, ce qu'on appelle vulgairement le méridien de Greenwich.
C'est en Angleterre, donc vulgairement,
sur une île.
Ouais, sur une île.
D'ailleurs, les Anglais, l'Angleterre était coupée du monde un jour, il y avait une grosse panne de courant, les journaux anglais titraient « Le continent est isolé ». Voilà la mentalité des Anglais. Donc, on revient au méridien de Saumur qui passe par Le Havre et accessoirement par Greenwich.
Voilà.
Et nous sommes, Nantes est donc à l'ouest, très exactement à 1,33 à l'ouest.
Donc à gauche, entre guillemets.
À gauche, quand on regarde le pôle Nord.
Voilà, quand on regarde le pôle Nord.
Voilà, les Australiens lèvent beaucoup la tête. Alors en fait, lorsqu'il est minuit au méridien, lorsqu'il est 23h au méridien de Saumur, il faut donc attendre encore une heure sur votre montre, c'est-à-dire qu'il faut attendre une heure du matin pour qu'il soit réellement minuit au méridien de Saumur. Mais...
Donc ceux qui sont, pour résumer, à Saumur, ils ont fêté le millénaire...
À une heure du matin. Fêter à une heure du matin, le 1er janvier 2001.
Tout à fait.
Donc, il fallait attendre une heure de plus. Donc,
pour ceux de Saumur...
Pour ceux de Saumur, vous avez tout faux, il faudra recommencer, mais alors dans 1000 ans, faites attention. Alors, arrivé donc Nantes, il faut encore attendre pour atteindre cet endroit précis du méridien de Saumur, enfin virtuellement, puisque le méridien de Nantes a donc à parcourir encore 1,33 degrés. Comme la Terre tourne, alors elle fait 360 degrés en 24 heures, vous calculez, ça fait à peu près 15 degrés par heure. Mmh. Ah, donc pour parcourir 1,33 degrés, il faut très exactement, vous ferez vos petits calculs, il vous faut 6 minutes 12 secondes. Il faut donc encore attendre 6 minutes et 12 secondes, donc vous ajoutez à 1 heure du matin, vous ajoutez 6 minutes 12 secondes pour que le méridien de Nantes soit exactement, non pas en face du soleil, mais que son anti-méridien soit en face du soleil.
Quand tu dis un méridien, en fait, c'est quand tu as bien dit une tranche d'orange, il faut bien apprendre que le méridien, c'est pas juste une demi-sphère, mais c'est
c'est pas un cercle complet, c'est un demi-cercle.
C'est un demi-cercle, mais quand tu dis pas l'anti-méridien, ce que je veux dire, c'est le...
L'anti-méridien, c'est le demi-cercle qui passe par
180 degrés, qui, pour ce qui nous concerne, doit passer du côté de la Nouvelle-Zélande, par là.
Voilà, quelque chose comme ça, voilà. Alors nous disions donc 1 heure, 6 minutes, 12 secondes. Mais ce n'est pas fini. Il y a l'équation du temps. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je vous demande toute votre attention, mais du moment que j'ai compris, vous pouvez comprendre.
Voilà.
Hein, c'est très simple. Imaginez, donc on sait que depuis Kepler, et, on sait que la Terre tourne autour du Soleil en décrivant une ellipse. Hein, c'est une espèce d'ovale.
Et là, Daniel fait le geste avec
sa main. Si je ne fais pas les gestes, je n'arrive pas à suivre mon raisonnement.
On met des caméras, ça sera plus la radio.
Alors j'ai une espèce d'ovale, et vous ne le savez peut-être pas, mais la Terre ne tourne pas toujours à la même vitesse autour du Soleil. Quand elle est près du Soleil, elle tourne plus vite que quand elle est loin. Et alors, je vous le donne en mille, elle est plus près du Soleil à quelle saison? Eh ben, il se trouve que c'est en hiver. Alors, tout le monde va me dire, mais en hiver, il fait plus froid, comment ça se fait que la Terre est plus près du Soleil? C'est tout simplement parce que les saisons ne sont pas dues à la distance de la Terre au Soleil, mais à l'inclinaison de la Terre au rayon du Soleil par rapport à la Terre. Donc, c'est une autre affaire, et ça, la distance, c'est pas les 5 millions de kilomètres de différence qui vont créer des saisons.
Hein. Bah, sauf pour ceux qui sont en Afrique, qui eux, en été, en décembre, pour eux c'est l'été, et eux, en plus ils sont encore plus proches du soleil que nous.
Oui, ça accentue un petit peu les gens d'hémisphère sud qui sont actuellement d'ailleurs en été.
Mais c'est vrai que pour nous c'est un peu paradoxal de se dire on est plus près. Mais...
Alors donc, en hiver nous sommes près du soleil. Et d'ailleurs, qu'on soit près ou qu'on soit loin, ce qu'il faut expliquer, c'est l'équation du temps. Qu'est-ce que c'est que l'équation du temps? C'est tout simplement que la Terre, comme en même temps qu'elle tourne sur elle-même, donc elle fait un tour complet en 23h56 minutes et 4 secondes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle...
La rotation de la Terre.
La rotation de la Terre, c'est pas tout à fait 24 heures. Alors, on s'expliquera tout à l'heure sur les 24 heures, c'est donc 23h56 minutes et 4 secondes. Dans ce temps-là, elle va faire un tour complet très géométriquement, c'est-à-dire que très exactement, le point que vous suivez qui fait son tour complet, il va se retrouver exactement en face de la même étoile. Oui, mais, entre-temps, la Terre, elle a parcouru un petit bout sur son orbite.
Elle s'est déplacée.
Elle s'est déplacée, donc quand elle va regarder de nouveau vers cette même étoile, elle va pas être tout à fait en face du Soleil. Elle aura bougé un petit peu, et pour se remettre exactement en face du Soleil, il faut qu'elle fasse encore un petit effort. Et donc, en fait, ça devient 24 heures, ou peut-être plus, un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, c'est ce jour, ce qu'on appelle le jour solaire, il varie, et le jour solaire moyen, il est exactement de 24 heures.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça, les 24 heures. Alors maintenant, on vient à cette équation du temps. Donc, quand la Terre est plus près du Soleil, elle va tourner plus vite. Donc, cette correction qu'on va devoir faire pour que la Terre se retrouve exactement en face, elle va être plus grande que quand elle est loin. Donc en ce moment, au 1er janvier...
Le jour solaire dure un peu plus que 24
heures. Le jour solaire, il va durer 23h56 minutes 4 secondes, plus, je vous le donne en mille, au 1er janvier 2001, plus 3 minutes 22 secondes. C'est pas rien, 3 minutes 22 secondes. Et ça va s'ajouter aux 6 minutes 12 qu'on avait déjà, plus, de décalage horaire,
plus le
décalage politique qui nous amène à l'heure de
Berlin. Le décalage politique, c'est l'été pour les soi-disant économies de...
Oui. Enfin, c'est une
économie
heure.
D'énergie, l'heure d'été. Après, l'heure d'hiver, c'est parce qu'on s'est fait quoi? On a perdu la guerre, et puis voilà.
Ah oui, pardon. Oui, mais c'est pareil, c'est politique aussi. Bon, donc on arrive au total de... Donc, quand il est minuit sur vos montres à Nantes, alors vous ne faites pas de bise, vous dites à tout le monde, non, je refuse, revenez dans une heure. Revenez donc à une heure, 6 minutes 12... plus 3 minutes 22, ça fait, tout le monde a pris sa petite plume, ça fait 9 minutes 34 secondes. Donc revenez à 1 heure, 9 minutes 34 secondes. Alors je vous dis tout de suite, on a fait ce calcul pour le méridien qui passe à la Tour Bretagne, parce que si on se trompe de 20 mètres, alors on a tout de suite une seconde de temps.
Ouais, c'est ça qui est impressionnant, ça, en fait.
Enfin non, il faut faire 300 mètres pour avoir une seconde de plus ou de moins. Hein. Alors c'est pas grave, hein. On va dire que Nantes est passé dans le troisième millénaire, le 1er janvier 2001, à 1h, 9 minutes, 34 secondes. Et voilà. Et bien, si vous avez raté le coup, il faudra faire ça au prochain millénaire. Mais il faudra nous demander avant, parce que l'équation du temps, elle aura peut-être changé d'ici là.
Oh bah elle aura sûrement changé.
Elle aura sûrement changé, parce que c'est pas au 1er janvier le temps.
Milliers d'années, la vitesse de rotation de la Terre la vitesse de rotation de la Terre et la vitesse de révolution ne sont pas des données qui sont fixes, mais qui bougent dans le temps. Il y a quelques dizaines, centaines, millions d'années, une année ne durait pas 365 jours, ça durait beaucoup moins que ça.
Puis il y a la précession des équinoxes et l'âge du capitaine.
En plus, je dois quand même
citer mes sources, je dois cette aide précieuse pour mes calculs à messieurs Lasseur, notre président d'honneur. Et monsieur Lasseur, je peux quand même l'annoncer, que vous découvrirez en direct, enfin non pas en direct puisque ça a été filmé, vous le découvrirez au journal de 13h à TF1 demain.
C'est ça qu'on parle de TF1 en bien.
Voilà, mardi 9, donc demain, mardi 9, à 13h, à la fin du journal de 13h, vous pourrez découvrir M. Lasseur en son atelier de construction de télescope dans le journal de 13h de M. Voilà. Pernaud. Voilà. Et le deuxième, mon deuxième assistant, entre guillemets, c'est notre autre membre d'honneur, M. Louis Campion, capitaine au long cours, qui va donner moult précisions sur méridien, anti-méridien. Mais nous savions déjà tout ça, mais enfin, il fallait le dire. Je crois que c'est important. Maintenant, si vous avez raté le coup, eh ben, on peut vous donner d'autres instants précis, hein, dans votre vie. Vous nous téléphonez, on va vous calculer ça. Tout à avec fait. Précision. Donc voilà, c'était le petit point de précision de la Société d'Astronomie de Nantes pour
merci
le passage
Daniel.
Au troisième millénaire.
Tu vas reprendre la parole, tu vas nous représenter rapidement la conférence et puis Pierre Léna en 30 secondes parce qu'on va continuer à parler de l'interview.
Absolument, nous changeons donc de sujet. Hein, Pierre Léna qui est venu le mardi 5 décembre nous parler de télescopes géants, interféromètres et planètes inconnues.
Donc dans la première partie de l'émission, on a passé une partie de son interview.
Alors, il voulait parler, c'est dans cette deuxième partie, d'ailleurs, qu'on va aborder, je pense, le sujet de ces fameuses planètes inconnues, c'est-à-dire les systèmes planétaires nouveaux qui ont été découverts plus de 40 depuis quelques années, avec cette fameuse nouvelle astronomie des très grands instruments, n'est-ce pas, mon cher Dominique?
Exactement. Donc, Pierre Léna, sans dire. Le VLT, Very Large Telescope en anglais, si on traduit son français très grand télescope, le projet comporte à l'origine 7, voire peut-être maintenant 8 ou 9 télescopes. Pourquoi mettre autant de télescopes sur une plateforme?
Alors, il y a plusieurs originalités dans le VLT. La première, c'est la limite de 8,20 m, finalement, qui est le miroir d'un télescope élémentaire, était une limite technologique. On ne pouvait pas faire plus. Donc on n'osait pas faire plus, on aurait peut-être pu faire un petit peu plus, mais bon, voilà, c'est ce que les ingénieurs à l'époque ont choisi, 8,20 m. Alors ensuite, on veut beaucoup de surface collectrice, donc l'idée est d'en faire plusieurs à ce moment-là, et de les monter sur des montures indépendantes. Et le VLT a la possibilité, facilité aujourd'hui par les détecteurs de lumière qu'on utilise, que les quatre télescopes regardent le même objet astronomique, et qu'on additionne les signaux produit par la lumière de cet objet, mesuré par quatre caméras, pour avoir l'équivalent d'un télescope unique de 16 mètres de diamètre. Hein. 4 fois 8 mètres de diamètre, ça fait l'équivalent de 16 mètres de diamètre. Donc ça, c'était l'idée initiale, si vous voulez. Mais on s'est aperçu très vite qu'il y avait une autre possibilité, qui était de combiner la lumière, non pas en additionnant l'intensité des faisceaux lumineux, comme je viens de le décrire, mais de façon plus subtile, c'est ce qu'on appelle l'interféromètre, en combinant ces quatre miroirs de manière à avoir l'équivalent d'un télescope dont, à ce moment-là, le diamètre est égal à la plus grande distance qui sépare ces miroirs, dans le cas du VLT, 120 mètres. On n'a naturellement pas la quantité de lumière que recueillerait un télescope de 120 mètres de diamètre, mais on a la finesse de l'image. Et c'est ça la fonction interférométrique du VLT. Alors vous parliez de 7 télescopes, alors, il y a les 4 grands qui font donc chacun 8,20 m de diamètre, qui peuvent être combinés entre eux, 2 par 2, 3, voire 4. Mais il y a aussi 3 petits télescopes auxiliaires, qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs, puisqu'ils font 1,80 m de diamètre, 4 plus 3 égale 7, et qui eux sont mobiles sur le plateau, qu'elle est installée le VLT et qui offre la possibilité de distance de combinaison et d'orientation de base que forment ces télescopes très diverses. Et c'est cet ensemble qui forme l'interféromètre qu'on appelle le VLT interférométeur ou VLTI en abrégé.
Mais l'interférométrie nécessite qu'on combine la lumière issue de ces 4 ou 7 télescopes de façon extrêmement rigoureuse, extrêmement précise. Vous nous avez parlé de distance de l'ordre de 120 mètres. Comment peut-on réussir à combiner des lumières issues de ces télescopes avec la précision qui se situe encore une fois dans l'ordre de la longueur d'onde de la lumière? C'est extrêmement complexe dans la mesure où les télescopes poursuivent un objet dans le ciel doivent se déplacer, doivent monter, descendre, tourner, et on peut facilement imaginer que la mise en œuvre de l'interférométrie avec autant d'instruments soit extrêmement difficile.
Vous avez tout à fait raison. L'interférométrie optique, c'est-à-dire aux longueurs d'onde petites, hein, une fraction de micromètre, vous le rappeliez tout à l'heure, a une histoire ancienne, intéressante et toujours techniquement ambitieuse. Elle a commencé il y a plus d'un siècle, en 1868, avec l'idée géniale de Fizeau qu'on pouvait justement utiliser la combinaison de lumière recueillie à des points différents pour mesurer la taille des étoiles. Fizeau lui-même n'a pas pu construire de grand interféromètre. C'est Albert Michelson, le célèbre physicien américain, qui lui l'a fait et qui a été le premier en 1920 à mesurer le diamètre d'une étoile autre que le Soleil, malgré les vibrations qui, bien que contrôlées par un système aussi rigide qu'il pouvait le faire, étaient néanmoins très, très gênantes. Alors ceci a été jugé tellement difficile que personne après Michelson n'a eu en quelque sorte le courage d'oser penser qu'il pourrait faire aussi bien que ce physicien expérimentateur extraordinaire qui était Albert Michelson. Il a fallu attendre Antoine Labéry, donc 1975, pour que ce jeune astronome à l'époque ose lui se dire qu'il pouvait y arriver, et de fait il y est arrivé. Et il a été le premier à combiner la lumière de deux télescopes indépendants, à l'époque tout petit, une dizaine de centimètres, mais la voie était ouverte. Un grand télescope est par nature très lourd, très massif, même si on l'a allégé, et donc finalement il est assez stable. Et les ingénieurs qui ont construit le VLT, aussi bien les 8 mètres que les 1,80 m, ont réussi à tenir ces spécifications de précision. On a maintenant pratiquement terminé l'ensemble et toutes les études qui ont été faites très soigneusement pour la construction ont montré, et les réalisations l'ont confirmé, que cet objectif pouvait être tenu. Alors vous l'avez dit, c'est difficile, mais les astronomes aiment bien la difficulté, d'une certaine manière, les difficultés technologiques. Et donc nous savons avec grande confiance, je crois, que au mois de mars prochain, l'interféromètre qui sera mis en service progressivement, d'abord avec des petits miroirs, des sidérostats de 40 cm, pour être certain que tout le dispositif de traitement de la lumière fonctionne, puis ensuite avec les miroirs de 8 mètres.
Oui, mais alors pourquoi l'interférométrie, justement ? Ben imaginez que, quel que soit l'instrument terrestre ou même l'instrument hors atmosphère qu'on utilise pour observer une étoile ne donnera jamais d'elle-même que l'image d'une étoile sera toujours un point. Même dans le plus gros des télescopes, même dans le 10 mètres du Mauna Kea, une étoile, ce sera un point. Donc les instruments les plus puissants qu'on ait jamais construits ne sont pas capables de faire une opération qu'on appelle la résolution. Un gros instrument n'est pas capable de résoudre une étoile.
C'est-à-dire d'avoir sous forme de disque, en fait.
Voilà, de montrer l'étoile sous forme de disque, comme on pourrait le faire, comme on pourrait le voir pour le Soleil ou les planètes, par exemple. D'où l'idée de coupler, comme vient de l'expliquer Pierre Léna, de coupler plusieurs télescopes de façon à combiner la lumière de ces télescopes et en utilisant une méthode qui s'appelle l'interférométrie. Alors bien évidemment, lorsqu'on va faire des observations par interférométrie, on ne va pas avoir directement une image. Pierre Léna a expliqué qu'au VLT, les télescopes sont disposés sur un cercle qui fait environ 120 mètres de diamètre. On ne va pas, à partir des 4 télescopes ou des 7, puisque à terme, en principe, les 7 devraient être utilisés pour ça, on ne va pas réussir, même en utilisant ces 7 télescopes en même temps, à avoir quelque chose qui soit une image visuelle. On va obtenir ce qu'on appelle des franges d'interférométrie, c'est-à-dire que les lumières provenant des différents télescopes... Des franges d'interférence. Donc en fait, ce qui se produit, c'est que les lumières qui proviennent de ces différents instruments vont être combinées et vont être analysées par des capteurs électroniques qui vont enregistrer des signaux qui ne seront que des signaux électroniques qui ensuite devront être analysés très finement avec des programmes bien particuliers pour essayer de faire parler un petit peu ces signaux et de leur faire dire ce que eux ont vu.
C'est ça un peu le but. Donc je pense qu'on va passer à la dernière partie de qui va nous parler un peu, qui vont peut-être réussir à avoir quelques images des exoplanètes, parce que grâce aux franges d'interférométrie, ils pourraient voir en fait une planète tourner.
Peut-être même aux franges d'interférence.
D'interférence, ouais. En plus, je le corrige pas. Bon, bah, on passe la suite.
Je parlerai ce soir, hein, c'est la structure des systèmes de disques qui forment les planètes autour des étoiles. Depuis 5 ans, nous savons que les étoiles, en tout cas un nombre respectable d'entre elles, sont entourées de planètes. Donc on a maintenant les premiers systèmes exoplanétaires, comme on les appelle, et l'interféromètre du VLT est un des outils parmi une palette que les astronomes mettent au point en ce moment pour faire l'image de ces planètes.
Ça veut dire qu'on va voir de visu ces planètes alors, parce que jusqu'à présent on n'a fait que les détecter par des méthodes indirectes.
Tout à fait, et c'est le domaine de prédilection de l'interférométrie optique, cette détection des exoplanètes. Donc nous passons en ce moment beaucoup de temps et d'énergie pour préparer à la fois les instruments et les programmes qui vont sans doute nous permettre de les détecter, sachant que la nature nous fait un beau cadeau, puisque parmi la trentaine ou quarantaine de planètes actuellement découvertes, le nombre augmente tous les jours, donc je ne suis pas tout à fait forcément un jour ce soir, mais un nombre significatif d'entre elles se trouvent extrêmes, sont d'abord des planètes géantes, de taille comparable à Jupiter ou Saturne, mais aussi se trouvent très près de leur étoile, beaucoup plus près que la Terre, même beaucoup plus près que Mercure de leur étoile. Elles sont donc très chaudes, 700, 800, 1000 degrés Kelvin éventuellement, et donc relativement faciles à détecter, mais très près de l'étoile, donc demande un pouvoir séparateur, comme on dit, très élevé. Donc l'interféromètre est en fait un outil assez idéal pour observer ces objets.
Donc l'interférométrie, le VLT, les nouvelles planètes, j'imagine que les équipes qui travaillent sur ces programmes doivent être très excitées à l'idée de recevoir très très bientôt, dans quelques mois, leur première lumière. De qui sont constituées ces équipes? Qui au fait est à l'origine du VLT, de ces projets? Un seul pays n'y suffit pas aujourd'hui.
Non, il y avait au départ 6 pays européens, j'ai dit tout à l'heure, qui étaient rejoints par la Suisse et l'Italie. Donc ces 6 pays, c'est à la fois de très grands pays, avec des ressources importantes, comme la France et l'Allemagne, mais aussi des petits pays qui apportent une contribution très importante, parce qu'ils ont une longue tradition astronomique, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique... Et bientôt, sans doute, le Royaume-Uni qui se joindra au pays du VLT. On parle beaucoup de son adhésion probable pour l'année 2002. Donc les Anglais, qui avaient fait un peu bande à part en astronomie européenne, vont rejoindre le club des 8, et c'est très bien. Et le Portugal vient également de rejoindre, donc nous serons 10 dans les eaux d'ici 2 ans, très vraisemblablement. Et nous serons 9 dès le 1er janvier prochain, oui.
Très bien, Pierre Léna, je vous remercie. On vous invite une prochaine fois pour que vous puissiez venir nous décrire les planètes qu'on aura vues au VLT.
On vous inviterait plutôt un spécialiste, hein, parce que d'abord, je passe la main aux jeunes maintenant. Nous avons à l'école doctorale d'Île-de-France des jeunes futurs astronomes extrêmement motivés, extrêmement brillants, et c'est eux qu'il faudra inviter pour vous en parler.
On vous remercie encore une fois. Au revoir, Pierre Léna.
Au revoir.
Bien, ben écoutez, après ce qu'on vient d'entendre, moi je ne peux pas m'empêcher de vous apporter quelques petites informations concernant les projets d'exploration et de tentatives de découverte de planètes extrasolaires, parce que c'est quelque chose qui est quand même très excitant, dont on parle beaucoup, et Dieu sait si les différentes agences spatiales, autant européennes qu'américaines, déploient des efforts considérables pour essayer d'augmenter un peu nos connaissances en ce qui concerne ces planètes. Je citerai le projet Corot, qui est un projet du CNES, qui devrait s'envoler. Voilà, le Centre national d'études spatiales, c'est français, qui devrait s'envoler autour de 2004. Et lui, il vise l'observation d'environ 60 000 étoiles. Chacune serait observée pendant 5 mois, de façon à découvrir plusieurs dizaines de planètes en mesurant les différences de luminosité lors du transit de la planète devant l'étoile. Hein. Imaginez la petite planète qui passe devant l'étoile, ben forcément elle crée une mini-éclipse qui va se traduire par une baisse de luminosité de l'étoile. Et bien Corot sera capable de détecter cette baisse de luminosité.
Le problème c'est que c'est très très faible, il n'y a que maintenant qu'on peut dire qu'il n'y a que maintenant qu'on y arrive, il n'y a que maintenant qu'on peut envoyer des sondes pour les relever,
Alors chaque étoile, chaque étoile sera observée pendant 5 mois, et pour que la mesure soit validée, on considère que la planète en question doit transiter au moins 3 fois devant l'étoile, parce que si c'est qu'une fois ou deux,
ça peut être une erreur.
Ça peut être une erreur ou un accident. Donc là, ça ne va concerner ce projet-là que des étoiles, que des planètes qui ont des périodes relativement courtes.
Il faut savoir qu'une fois qu'on aura mesuré la différence de luminosité, on aura des informations sur l'étoile.
Voilà. Pour aller un petit peu plus loin dans la démarche, l'ESA, cette fois-ci, il a un autre projet qui s'appelle Eddington.
L'ESA, c'est l'Agence Spatiale Européenne.
Merci Thierry. Qui devrait partir, lui, vers 2010. Et à la différence du projet Corot que je viens d'évoquer, les étoiles, au lieu d'être observées pendant 5 mois seulement, elles seraient observées pendant 3 ans. Donc ce qui laisse la possibilité de découvrir des planètes avec des périodes un petit peu plus longues.
Et le problème de 5 mois, c'est vraiment si on prend Jupiter. Jupiter qui a une révolution qui est supérieure à 5 mois, comme la Terre, à la rigueur. C'est-à-dire qu'en fait, la planète Terre ne peut pas passer devant le Soleil on imagine que des extraterrestres mettaient un satellite de l'arbre. Donc c'est vrai que 5 mois, c'est une période qui peut être considérée comme
5 mois, c'est court, mais bon, si on s'en tient aux exoplanètes qui ont été découvertes récemment, il y en a quelques-unes qui ont des planètes de l'ordre de quelques jours, des périodes de l'ordre de quelques jours seulement.
Parce que c'est vrai que les découvertes aussi sont faites sur des périodes assez courtes.
Voilà, puis derrière ça, il y a des projets un petit peu plus fous, un petit peu plus long terme. Gaïa, un projet de l'ESA 2012.
Mais il était accepté celui-là, donc il va
oui,
passer.
Oui, mais bon, c'est quand même encore à l'état de projet, parce que 2012, c'est pas tout à fait demain.
Non, c'est sûr.
Là, qui projette d'observer 1 milliard d'étoiles, donc 1 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Darwin, également un projet de l'ESA, qui devrait voir le jour en 2015-2020. Et puis, les Américains vont un tout petit peu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que à l'horizon entre 2020-2025 jusqu'à 2050, ils lancent des projets qui auraient pour objet d'aller carrément photographier, analyser ces fameuses planètes extrasolaires, et pas seulement des planètes géantes de la taille de Jupiter, mais surtout des planètes de la taille de la Terre, notamment à travers un projet qui s'appelle Terrestrial Planet Finder, qui devrait, en principe, qui est fait pour aller chercher ces petites planètes et voir si même il n'y aurait pas quelques molécules d'ozone, d'eau ou de méthane autour de ces planètes, en atmosphère, en sorte. Et puis, alors là, on va beaucoup plus loin, 2050, un autre projet un petit peu fou aussi, qui s'appelle Extrasolar Earth Imager, qui lui aurait, si tout va bien d'ici là, et si on a mis au point les technologies qui permettront de le faire, pourra voir si, à tout hasard, il n'y aurait pas quelques continents sur ces planètes.
Ah oui, c'est un espoir assez important. C'est vrai, quand tu parlais de membre du Gaïa qui est programmé pour partir en gros en 2012, il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui ont travaillé il y a quelques années dessus, et en fait ça a été accepté, je crois, cette année, comme programme, parce qu'en fait c'est un peu comme partout, hein, ils font des projets, puis bien sûr il faut les sélectionner, malheureusement c'est un problème de budget, etc. Donc Gaïa est accepté, c'est pour ça qu'on parlait un peu du télescope spatial Hubble qui a mis près de 20 ans à se mettre en route. Bah, Gaïa c'est un peu le principe, hein, parce que c'est-à-dire ils ont mis 3-4 ans, ça fait 3-4 ans qu'ils bossent dessus, et puis en fait ça va être lancé qu'en 2012. Donc en 2012 on va se retrouver avec une technologie qui date de l'ancien millénaire.
Sauf qu'on pourra l'adapter assez... pas en temps réel, mais beaucoup plus facilement que pour un engin spatial.
Tout à fait.
Ce qui fait que le projet n'est pas très précis. Le projet prévoit des financements pour une et des études, puis après, peu à peu, ça se met en place, et c'est dans la phase finale que les choses sont
affinées. Oui, mais il y a quand même ils mettent des contraintes, etc., qui ne peuvent plus être changées au bout d'un certain temps.
Possible.
C'est vrai que les...
Quoique, si on regarde les sondes Voyager, par exemple, elles ont continué à évoluer bien après leur lancement,
ouais,
parce qu'on a fait des mises au point, on a fait des mises au point logicielles dessus, donc...
Tu peux toujours faire des mises au point logiciel, mais j'ai le matériel.
Le matériel, ce sera quand même un petit peu plus difficile.
C'est vrai que les sondes Voyager, on a téléchargé des patchs, comme on dit en jargon informatique, des mises à jour de logiciels pour qu'ils fonctionnent mieux.
Si elles fonctionnent bien, les sondes Voyager, c'est parce qu'ils n'ont pas mis Windows dessus quand même.
Oui.
Dire, à l'époque, c'était avant. L'hécatombe.
L'hécatombe. Donc maintenant, on va parler de... Non, que je regarde mon planning, c'est pas ça du tout. Maintenant, on va faire une petite pause musicale. Donc on va être dans l'espace, un peu space. L'astronomie dominée de Pink Floyd. Ça déboîte pas, hein, Dominique ?
C'est ce qu'on disait. Non, c'est toujours d'actualité, Pink Floyd.
Donc, Pulsan, la musique est éclectique. On essaie de trouver des titres ou des choses qui sont par rapport avec l'astronomie ou le thème qu'on aborde. Donc, on a eu Ocarina tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec Pink Floyd, puisque astronomie dominée, on n'a pas le choix de passer.
Ah ouais, mais passe ou ne passe pas, mais n'essaye pas.
Voilà, comme disait Yoda, en gros. Donc, on va passer maintenant à une autre partie. Vous êtes toujours sur Alternante avec la Société de l'Astronomie Nantes.
Et vous avez raison.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Il faut le préciser. C'est vrai que les gens, des fois, ils se disent, mais pourquoi j'écoute? Bah là, vous avez raison
d'écouter. Vous n'êtes pas là par hasard. Voilà. Et si vous y êtes par hasard, vous n'y êtes plus par hasard. Faut rester. Vous restez scotché.
Donc là, on va vous parler un peu de la vitesse de la lumière. Ah non, c'est encore Daniel Warling qui prend la voix. J'ai pris trop tôt.
J'aime bien comment il dit. C'est encore.
Non, parce qu'on va me dire, Daniel, il fait toute l'émission, etc. Mais bon, il y a des choses à dire. On est bien obligé de le laisser parler.
Mais j'en ai bien plus à dire encore. Je me retiens.
T'as raison.
Bien sûr.
Alors, parle-nous un peu du fameux Römer qui n'est pas allemand comme son nom l'indique.
Qui est danois.
Voilà.
Il est danois. Alors, je parlais de Römer, mais c'est rapidement. À propos de l'expérience, la fameuse expérience de Römer. Alors, je ne veux pas vous dire tout de suite la date, puisque c'est justement l'objet de cette petite chronique historique. D'abord, je vais vous parler de la vitesse de la lumière, parce que vous le savez peut-être, il y en a peut-être qui l'ignorent encore, la lumière, ben, en fait, ça a une certaine vitesse. Hein. Alors, à notre échelle, quand on tourne l'interrupteur, c'est immédiat, la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, mais 2000 ans après, on inventa l'électricité et l'interrupteur remplaça le subjonctif, comme disait Cavanna. Donc c'est immédiat, mais à l'échelle de l'univers, c'est loin d'être immédiat. C'est-à-dire que pour traverser
même le système solaire, d'ailleurs.
Le système solaire, bah, il faut 4h30 à la lumière pour aller du Soleil à l'autre bout.
Une seconde
pour venir de la Lune, et 8 minutes pour venir du Soleil. Et il faut 100 000 ans pour traverser la Voie lactée, et je ne vous dis pas pour aller au fin fond de l'univers. Enfin, c'est de l'ordre des milliards d'années.
Donc elle n'avance pas, cette lumière.
Ben non, elle rame. La
300 000 km à la seconde, c'est ça?
Ah non, mais il me déflore tout, lui.
Une fois que c'est pas toi qui le fais,
Je n'efflore pas tout, moi, hélas.
Alors, Jésus, Marie-Joseph. Allez, vas-y, continue.
Eh bien, cette fameuse lumière, maintenant vous le savez, effectivement, on sait qu'elle va à 300 000 km à la seconde, à peu près. C'est
92,458.
Dans le vide,
bien sûr.
Ah, dans le vide. Ouais. Si vous enlevez tous les obstacles, les molécules d'air, oui. Mais si vous les mettez, ça va presque aussi vite. Hein. C'est...
À quelque chose près.
Voilà. Alors, bien sûr, cette vitesse, un jour, quelqu'un l'a mesurée. Alors, c'est pas facile à mesurer la vitesse de la lumière.
Alors, un bon chrono, quoi.
Aujourd'hui, on fait ça avec des méthodes ultra modernes, extrêmement sophistiquées. Alors, moi, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite. Et ma foi, moi-même, j'étais étonné quand j'ai vu à quelle date, la première fois, on a établi la vitesse de la lumière. Figurez-vous que c'était, dans l'an 1000, était-ce au siècle dernier, c'est le 20e siècle, était-ce au 19e, au 18e, au 17e, au 16e, c'était au 17e siècle, voilà. Très exactement en 1676. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il faut replacer ça dans le contexte de l'Observatoire de Paris qui venait d'être fondé pour la plus grande gloire de Sa Majesté Louis XIV. Et c'était la grande époque où on s'interrogeait sur la forme de la Terre. On avait le gros problème de la longitude, dont on ne parlera pas ce soir, mais qu'on va vous
évoquer. On a déjà parlé un petit peu, hein.
Et je vous en parlerai aussi à propos de la semaine de l'astronomie. C'est un vrai problème, hein, ça, de savoir où on était sur le globe avec la longitude. Alors évidemment... Alors d'ailleurs, c'est lié à ce problème-là. Alors on construit cet observatoire de Paris, on y met tout un tas de grands savants, dont la dynastie des Cassini, hein, qui régnèrent sur l'observatoire de Paris pour le plus grand bien d'ailleurs des sciences pendant fort longtemps. Et nous sommes donc dans les années, peu après la fondation de cet observatoire, qui date des années 1671, il a été vraiment achevé en 83, donc il a mis un certain temps. Mais entre-temps, on y a fait des travaux. Et alors, le fameux Ole Römer, le Danois, est venu un peu dans la valise diplomatique du nommé Picard, qui était français, mais qui avait été envoyé en expédition pour des histoires, justement, de mesurer le méridien de la Terre sous diverses latitudes, etc. Il a donc rencontré ce brillant et jeune astronome danois, Olaus Römer, qui avait 27 ans à l'époque où il vint à Paris. Et il a entendu Cassini déjà émettre l'idée que la lumière mettait à peu près une dizaine de minutes pour se propager, pour venir de Jupiter. Alors Romer va mettre à profit cette information. Et vous savez que à ce moment-là, on était à la recherche d'horloges, disons astronomiques. Je m'explique. Pour naviguer hein, en latitude, c'est facile. On regarde la hauteur de l'étoile polaire, on mesure et on a l'angle où on sait où on est en latitude. Par contre, la longitude, c'est embêtant. Il faut avoir l'heure du méridien origine et ensuite on regarde l'heure de là où on est. On regarde notamment le midi ou alors on regarde un astre et d'après les tables, on sait que à telle heure il est à tel endroit. Donc avec ça, on a l'heure. Et on compare l'heure que l'on observe à l'heure que l'on a à sa montre, qui est restée à l'heure de Paris, par exemple. Et alors, on sait quel décalage horaire on a avec Paris, et donc où on est en longitude.
Et avec la latitude, ça fait une croix. Voilà. Donc
alors, on est. Pour ça, il faut des horloges précises et coûteuses et qui marchent d'une manière fiable. Et ça, c'était loin d'être acquis à cette époque-là. Donc, on était à la recherche de phénomènes astronomiques qui pouvaient être observés en tout point du globe d'une façon immuable et qui vous donnaient l'heure précise. Alors, on avait beaucoup observé les satellites de Jupiter.
Les fameux galiléens.
Les fameux satellites galiléens, donc que Galilée avait observé dans sa lunette à l'époque, Io, Europe, Ganymède et Callisto, et ces satellites tournaient autour de Jupiter.
Ils tournent toujours d'ailleurs.
Et tournent toujours. Je crois. Ils n'ont pas cessé de tourner. Oui. L'immersion de chaque satellite était connue avec une grande précision. On avait observé longtemps. On avait fait des tables. Et malheureusement, on s'était aperçu qu'alors que ce phénomène était périodique et très précis, que selon le moment de l'année où on l'observait, il avait tantôt 12 ou 13 minutes de retard ou 12 ou 13 minutes d'avance sur ce que l'on pouvait, sur la moyenne, sur la moyenne des observations. Et on savait bien que c'était pas possible. C'est pas possible que quelque chose qui tourne autour d'un astre comme Jupiter, c'est du retard ou de l'avance de 10 minutes. C'est impossible. Donc, Romer a émis l'idée toute simple que finalement, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, hein. Donc quand on observe Jupiter et s'il est du même côté que nous, que la Terre par rapport au Soleil, ben à ce moment-là, on est plus près de Jupiter de 150 millions de kilomètres. En revanche, 6 mois après, lorsqu'on est derrière le Soleil et que Jupiter a relativement peu bougé en 6 mois, eh bien, la lumière pour venir de Jupiter, elle va mettre 150 millions de kilomètres de plus.
En fait,
entre les deux observations.
La valeur le transmite, le diamètre du rayon de l'orbite.
Exactement. Entre deux observations faites à 6 mois d'intervalle, il y a 300 millions de kilomètres. Or, le retard qu'on observe entre ces deux saisons est de 26 minutes 40 secondes, soit très exactement 1000 secondes. Et Romer a donc dit, c'est très simple, la lumière, elle parcourt 300 millions de kilomètres en 1000 secondes, c'est-à-dire 300 000 kilomètres à la seconde. Et cette valeur est excellente, elle est très très proche de la réalité.
Parce que la valeur exacte qui était dans les dernières mesures, hein, je connais jusqu'à la
9e
décimale,
c'est que dalle.
C'est 299 792.
Donc cette mesure de la vitesse de la lumière, elle date de 1676. Alors bien sûr, la surprise du 20e siècle, ça va être que cette vitesse de la lumière, elle va être invariante, c'est-à-dire qu'elle va être la même que la Terre, que vous la mesuriez dans un sens ou dans l'autre, selon quand vous êtes sur la Terre, ce qui fait qu'en fait, ça va être un peu troublant, et actuellement, la vitesse de la lumière, c'est une constante physique. Alors, on ne sait pas trop ce qu'est la lumière, n'est-ce pas,
mon cher? C'est le C dans E égale MC2, parce que tout le monde connaît E égale MC2, personne n'est capable d'expliquer chaque terme, à part le...
On connaît beaucoup mieux
E égale M6.
E égale M6 en ce moment.
Alors, c'est bien E égale MC2, mais il faut savoir...
E égale, tout le monde sait ce que c'est, le E c'est l'énergie, le M c'est la masse, et le petit c qui est au carré, pour ça que le petit 2...
C'est la célérité.
Voilà, là... La vitesse de la lumière.
C'est la constante physique. Vous savez que pour notre ami Laurent Nautal, c'est pas 300 000 km secondes, c'est 1, puisqu'il considère que ça fait partie des constantes. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on vous racontera une autre fois.
Merci Daniel. Est-ce que tu peux embrayer d'ailleurs, juste lui parler un peu de la longitude, sur la semaine de l'astronomie qui va se dérouler du 23 au 27?
Alors oui,
et bien sûr. On va parler un petit peu du problème de la longitude qui était à l'époque où tu as situé dans les années 1600.
Absolument. Alors, bien entendu, nous restons un peu dans le sujet, mais nous sommes effectivement pour cette semaine de l'astronomie, nous avons l'idée de faire venir, donc ça se déroule, ces 5 conférences, 5 soirs de suite dans la même semaine, du mardi 23 au samedi 27 janvier. Et alors là, la première des conférences s'appelle « Et la Terre cessa d'être ronde ». Pourquoi ? Ben parce qu'elle n'est pas tout à fait ronde et il faut mesurer les arcs de méridien selon la latitude. Et ça, c'était un travail considérable qui a été fait avec des expéditions qui emmenèrent les astronomes fort loin sous les tropiques et auprès des pôles. Ça sera raconté par Jacques Gapaillard, qui est un des spécialistes de l'histoire des sciences, qui est professeur de mathématiques, entre autres, et à Nantes. Hein. Ça, c'est le mardi 23. Mercredi 24.
Le lundi 22, il y aura l'émission.
Il y aura l'émission de radio.
Donc on en parlera plus précisément.
Mais mercredi 24, c'est Christophe Sautin de l'Université de Nantes, laboratoire de planétologie, qui nous parlera de l'eau dans le système solaire. Le jeudi 25, ce sera le chaos et l'organisation des systèmes planétaires, les nouveaux systèmes planétaires, par Jacques Lascar, un des spécialistes des calculs de chaos. Vendredi 26, ce sera Suzy Collin, les trous noirs au cœur des galaxies, au cœur de la Voie lactée, il y a un trou noir géant, au secours. Et nous terminons samedi 27 par le soleil au maximum d'activité par Jean-Paul Zahn. Voilà une belle semaine d'astronomie. Venez du mardi 23 au samedi 27 janvier au Muséum d'Histoire Naturelle.
Voilà, donc faut rappeler que c'est un peu le marathon. Le but, c'est un peu de se dire, bon, on va faire une semaine complète d'astronomie. Donc là, ce sera la semaine complète, parce que du lundi au samedi, il y aura astronomie, sauf que le lundi, ça sera sur les ondes sonores.
Eh ben oui.
Merci Daniel. Est-ce que Dominique, tu as quelque chose à rajouter au niveau de l'ENA ou d'autres choses ?
Au niveau de l'ENA, je crois qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Peut-être tu nous dis un petit mot de l'événement de demain soir.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un petit événement. Outre que c'est le lendemain de la première émission Pulsade du millénaire, il y a quand même un petit événement. C'est marqué justement...
Tout petit. Hein.
Tout petit, on va dire. C'est simplement que la Terre passe entre le Soleil et la Lune, ce qui fait une éclipse de... Lune.
Et ce qui a permis de dire aux Grecs que la Terre était ronde.
Voilà.
Parce qu'ils ont vu que l'ombre était ronde, donc si c'était une pièce de 20 centimes, la Terre plate, hein, ronde mais plate, elle serait ronde que si elle était strictement perpendiculaire. Pour qu'elle soit ronde dans toutes les positions, il faut que ce soit une sphère.
Donc quand on a découvert que la Terre était ronde dans les années 1400, ça faisait longtemps que les Grecs le savaient, et en fait, entre-temps, le savoir s'est perdu. Donc en fait, il y a éclipse de Lune, il faut quand même le signaler.
Il a été éclipsé, le savoir.
Oh bien, éclipse et le savoir. Donc il y a éclipse de lune, ça commencera vers 19h45 à peu près, le phénomène, et ça finira aux alentours 23h30.
Heure légale de France.
Heure légale, non pas heure locale, heure légale française, donc à vos montres, 19h45, et en fait c'est là que commencera, l'ombre de la Terre va commencer à passer devant la lune.
À grignoter la lune, ram miam miam.
Voilà, donc...
N'oubliez pas vos lunettes éclipse.
On en a déjà parlé le 25, hein, qu'il fallait pas utiliser les lunettes éclipse de soleil, ça servait strictement à rien, parce que là vous verrez rien du tout. Donc le 25 décembre, on en a déjà parlé un peu, l'éclipse. Mais bon, vu l'émission qui était un peu débridée...
J'ai raté un délire, oui.
Oui, c'était un peu le délire. Bah,
j'étais pas là pour dresser, pour faire de l'ordre.
Non, tout à fait. Ouais. Donc voilà, je vous remercie. Non,
on répète bien, pas besoin de lunettes solaires. Une éclipse de lune, ça se regarde à l'œil nu, sans aucun problème.
Tout à fait. Merci Dominique, merci Daniel pour cette émission. Merci à la technique, aux deux oies qui sont derrière, Frédéric et puis Vincent. Qui se gausse allègrement. Je vous rappelle que la prochaine émission, c'est le lundi 22 janvier, qui suivra après la semaine de l'astronomie.
Qui précédera.
Et donc, autrement, merci à tous. Vous étiez en direct sur Alternante avec Pulsan, la société de l'astronomie de Nantes. Ça se voit, parce qu'il y a des blancs. On va finir par le dicton du jour. À la Saint-Lucien, l'astronomie et la science de demain.
underground radio, underground radio, underground radio, underground radio waves. On the track, snapping your head back, check it out.